Georges Didi Huberman, on est très content de vous recevoir aujourd'hui chez Mola. Alors recevoir est un bien grand mot quand environ 600 km nous séparent, mais quoi qu'il en soit, on est là pour présenter votre livre « Le témoin jusqu'au bout » qui vient de paraître aux éditions de Minuit, un livre de 250 pages. Alors évidemment, vous présenter est compliqué parce que vous êtes imprésentable tellement il y a déjà de choses, notamment voilà, vous êtes directeur d'études en sciences sociales à l'EHESS, vous avez énormément travaillé sur l'histoire de l'art, plus de 50 livres écrits aujourd'hui, et j'avoue, en tant que jeune lecteur, le Être crâne en 2000 m'avait beaucoup impressionné. Et aujourd'hui, dans ce livre, vous formez comme un diptyque avec une œuvre que vous venez que vous avez écrite il y a 2 ans, Éparse, voyage dans les papiers du ghetto de Varsovie, les archives Ringelblum. Sauf qu'aujourd'hui, vous regardez cette question des témoignages juifs face à la persécution nazie à travers un immense auteur qui est Viktor Klemperer. Cet auteur, ce philologue allemand, il est très connu parce qu'il a publié donc LTI, la langue du Troisième Reich, auquel d'ailleurs il y a eu des récents livres sur cette question-là, notamment celui de Frédéric Joly. Sauf que vous regardez cette œuvre immense à travers le journal intime de Klemperer, qui a été un diariste très régulier. Alors, on a aujourd'hui en français ces deux journaux, deux volumes de journaux de 33 à 45. D'abord, celui s'est publié au Seuil, 800 pages, le premier volume qui s'intitule « Mes soldats de papier » en français. Et puis le deuxième, 1000 pages, « Je veux témoigner jusqu'au bout ». Alors il se trouve que Klemperer a écrit un journal aussi avant cette période-là, mais c'est avec l'arrivée des nazis au pouvoir que ce journal prend toute sa force de résistance. Et on est donc ensemble pour une cinquantaine de minutes. Ma première question, elle est très simple. Comment avez-vous rencontré Klemperer? Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce philologue juif allemand?
Il fait partie de ma culture de base, si vous voulez, depuis longtemps. Comme beaucoup de gens qui s'intéressent à l'histoire contemporaine, à l'histoire en général, à la langue. Je dois dire que le journal, je l'avais lu il y a longtemps et j'ai noté en le relisant que je l'avais laissé tomber. À un moment donné, c'est tellement intense, c'est tellement gros, c'est tellement foisonnant que... J'avais eu cette sorte de... Je m'étais dit, non, c'est pas possible. Et puis d'ailleurs, j'avais pris aucune note. Souvent, je prends des notes de ce que je lis, mais là, c'était trop intense. Voilà. Au fond, alors, je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas un spécialiste de la langue. J'ai l'impression, un spécialiste de pas grand-chose, de rien du tout. Je suis pas un spécialiste de la langue en tant que telle. Je suis pas un spécialiste de l'histoire du Troisième Reich ou de la Shoah en tant que telle. Mais, en fait, je m'intéresse aux gestes. Je pourrais dire cela, très, très simplement. Je m'intéresse aux gestes. Dans mes tout premiers travaux sur l'hystérie, je m'intéressais aux gestes des femmes qui souffraient et qui faisaient des gestes pour le dire d'une certaine façon, mais justement d'une façon qui n'était pas celle du discours et qui était très mal comprise. Et puis, quand j'ai travaillé sur les photographies, par exemple, du Sonderkommando d'Auschwitz, à la fin des années 90, début des années 2000, je m'intéressais pas seulement à ce qui était montré sur la photographie, à savoir être dans le représenter. Je m'intéressais au geste photographique. Et ce geste m'était apparu comme une façon de résister, de dire non, de protester, de se soulever. Voilà, malgré tout, puisque bien sûr, la situation était désespérée, et j'ai, en quelque sorte, je suis allé d'un exemple à l'autre, qui était le ghetto de Varsovie. Voilà, donc vous venez de faire référence à le petit livre que j'ai écrit autour de Emmanuel Ringelblum. Alors, c'est particulièrement intéressant, Ringelblum, dans le sens où... Moi, mon accès n'était pas un accès philologique et historique à proprement parler, puisque je ne lis ni le yiddish, ni le polonais. Et donc, j'étais attentif aux gestes. Voilà. Et alors, chez Klemperer, nous y venons, Klemperer est un philologue. Donc, il a apporté une contribution absolument majeure à l'étude des langues totalitaires. Et donc, on en a besoin plus que jamais aujourd'hui, hein, de relire LTI en particulier. Mais au-delà, enfin, ou dans les lignes même, entre les lignes de ces analyses philologiques implacables et éclairantes, il y a son geste. Voilà. Et je voulais écouter ce geste, et donc il n'y a pas de geste sans affectivité, et c'est pour ça que mon point de vue était un point de vue sur la question de l'émotion, en fait.
Oui, ça tout à fait, on va y revenir dans une des dernières questions, cette question de l'affect, qui à mon avis est centrale dans votre travail et qui permet de renouveler la vision de Klemperer. Vous venez d'évoquer ce journal intime, qui, alors je l'ai dit, publié en français, il fait 1800 pages, mais en fait, en réalité, il est beaucoup plus conséquent. Et Klemperer s'y accroche. Vous avez des très belles pages sur la métaphore du crayon, qui est comme une échelle qui permet à Klemperer de se sortir de la persécution. Alors, on le dit pour les téléspectatrices et les téléspectateurs. Évidemment, Klemperer raconte au jour le jour dans son journal la persécution, la chape de plomb qui s'abat petit à petit sur les Juifs allemands, en l'occurrence pour lui à Dresde. Et il va le raconter jusqu'à la fin de la guerre. Vous venez de le dire, le journal intime vous a beaucoup impressionné. On a ici à Bordeaux une spécialiste de cette question, Hélène Camarade, qui avait travaillé sur l'écriture de la résistance à partir de plusieurs journaux. Est-ce que vous considérez que d'un côté, face à une dictature qui en fait essaye d'englober tout le privé dans la répression, le journal est une résistance, ou est-ce que, vous le dites à votre manière, un balancier face à un funambule? Quel est le statut de ce journal qui, je prends vos mots et voilà, je joue avec, c'est un geste, mais c'est aussi une geste. Et voilà, quel est ce travail de 12 années? Qu'est-ce qu'il représente dans sa globalité?
Vous avez raison, c'est un gestus, c'est une geste, c'est un grand déploiement de gestes répétés. Alors ce sont des gestes tout à la fois minuscules, ce sont des gestes répétés d'angoisse. Il n'arrête pas d'avoir des problèmes cardiaques, il a l'impression qu'il va mourir très souvent. Il est courageux, il se dit constamment qu'il faut se remettre au travail, même si tous ses outils de travail lui sont retirés les uns après les autres, etc. etc. Oui, il y a une geste, vous avez raison. Mais alors, voilà ce qui se passe, c'est que, bon, si je prends l'analyse de Hannah Arendt sur le totalitarisme, et qui est aussi quelque chose à écouter pour nous aujourd'hui de façon très attentive, hein, elle dit que le totalitarisme, entre autres choses, hein, c'est quelque chose qui nous sépare des autres, qui nous met, nous sommes esselés, nous sommes alors elle fait une différence entre être solitaire et être esselé ou désolé. Le totalitarisme tend à nous esseler devant, je sais pas, devant nos écrans, devant plein de choses. Nous sommes esselés. Et pour s'en sortir, pour pouvoir toucher l'autre, il faut chercher en fait un autre régime d'existence. Et l'écriture, c'est cette manière extraordinaire, comme disait le poète Rilke, d'être à la fois solitaire et solidaire, les deux. Donc l'écriture est constamment quelque chose qui est... Bah, c'est une bouteille à la mer. Hein. Dans le cas de Klemperer, c'est vraiment clairement une bouteille à la mer, encore plus dans le cas de Ringelblum et du ghetto de Varsovie. Mais voilà, c'est des gens qui écrivent en espérant une seule chose, c'est que les bouts de papier sur lesquels ils ont écrit ça vont leur survivre. D'où le fait que Klemperer, donc à chaque fois, évidemment, tout ce qu'il écrit, si la Gestapo le découvre chez lui, s'en est fait de lui. Donc, il transmet ses feuilles de papier à une amie arienne dans la zone arienne qui cache ses papiers dans le double fond d'un mur. Enfin bon. Voilà, mais lui, quant à lui, il ne sait pas du tout s'il va survivre à ça. C'est-à-dire que l'écriture, moi j'écris, c'est ma vie, devient là quelque chose d'absolument essentiel, non seulement pour lui, je grimpe sur mon crayon pour échapper à l'enfer, donc ça le sauve lui d'une certaine façon, mais surtout, ça va vers l'autre. Ça transmet quelque chose à l'autre. Et donc, ça a une valeur de témoignage. Le mot témoignage étant à prendre dans un sens évidemment beaucoup plus large que le fait de témoigner de faits ou d'apporter la preuve de certains faits. C'est quelque chose de beaucoup plus large. Alors, donc, tout mon essai tourne autour de l'idée qu'un témoin de ce type, c'est-à-dire un témoin à qui personne n'a rien demandé et au contraire, on voudrait plutôt qu'il ne témoigne pas. Il témoigne malgré tout. Ensuite, c'est un témoin, en fait, qui est d'autant plus précis qu'il est sensible. Donc j'ai fait, en fait, mon hypothèse philosophique, si vous voulez, c'est que pour être précis, il faut être sensible. Normalement, dans une cour de tribunal, pour être précis, il faut être objectif. Donc moi, je dis il faut aussi être sensible dans le cas qui est celui de Klemperer. Et on peut faire l'analogie avec les sismographes, par exemple. Un sismographe n'est précis que s'il est sensible. Voilà.
Merci.
Est-ce que j'ai répondu à votre question ?
Tout à fait. Vous avez répondu à cette question. Et effectivement, il y a les deux aspects, c'est-à-dire ce que certains appellent l'émigration intérieure, au sens revenir sur soi-même, parce que le Reich prend tout l'espace public, persécute. Et puis la question du témoignage. Il y a ce passage intéressant où quelqu'un dit à Klemperer, mais en fait tu ne parles pas des faits à l'Est, tu ne parles pas de la guerre, tu ne recenses que des petites choses. Et lui répond, mais exactement, parce que c'est ça qui va se perdre et on n'aura pas cette collection des faits de persécution jour après jour qui touche à l'absurde, pas le droit d'acheter de la viande, puis pas le droit de rentrer dans tel magasin, etc. etc. Vous venez de le dire, passons directement à ça, parce que je pense que c'est le cœur de votre démonstration. Vous faites au départ un état des lieux de ce qui a été dit et pensé sur Klemperer, non seulement sur LTI, la langue du Troisième Reich, mais sur le journal, et avec justesse, vous montrez que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit sur Klemperer, notamment en montrant que la plupart des gens considèrent qu'il a une écriture froide, rationnelle, raisonnée, d'observation des faits. Et vous convoquez, comme vous venez de le faire à l'oral, la grande Hannah Arendt, qui dit « L'absence d'émotion n'est pas à l'origine de la rationalité. » Et c'est là toute l'originalité, à mon avis, de votre travail. Vous nous montrez, donc j'aimerais bien que vous alliez un peu plus loin, une véritable révolution copernicienne. Vous ne dites pas que Klemperer est précis parce qu'il n'a pas d'émotion, mais au contraire, vous dites « le texte foisonne d'émotions ». Et vous allez à la recherche de toutes celles-là, la peur, l'angoisse, parfois la joie, des moments comme ça lumineux. Est-ce que, voilà, vous pouvez nous expliquer à quel point ce texte est tout sauf, que l'émotion est présente à chaque page dans le texte de Klemperer?
Alors, je dois dire que ce petit livre n'était pas prévu. Je l'avais prévu, en fait, comme le chapitre d'un travail de plus longue haleine, que je mène en ce moment sur la question des émotions, des affects, enfin, il y a tous les mots possibles, je n'en rejette aucun, les sentiments, etc. Alors, ce qui s'est passé dans le cas de Klemperer, c'est que je me suis dit, il est impossible de ne pas citer longuement Klemperer, d'abord parce que ce qu'il écrit est magnifique, bouleversant, précis, tout, enfin c'est tout en même temps intelligent, voilà. Donc il faut le citer, il faut le respecter jusqu'au bout. Donc le citer plus que le résumer, il ne faut pas le résumer, il faut le citer. Et donc ce projet d'un chapitre est devenu en fait un petit livre. Et comme en fait ça avait la même consistance que ce que j'avais fait autour de Ringelblum, le chroniqueur du ghetto de Varsovie, qui est un cas similaire d'une certaine façon, j'ai pensé que ça pouvait faire un petit volume. Alors, je vous remercie d'avoir cité Hannah Arendt, parce que cette phrase de Hannah Arendt qui se termine en disant que, en fait, le contraire de l'émotion, ce n'est pas du tout la raison, mais c'est l'insensibilité. C'est une phrase absolument... C'est elle, là, qui fait la révolution copernicienne. Voilà. Il n'y aurait pas eu cette révolution copernicienne, je le précise tout de suite, sans Freud. Freud est très, très important dans cette histoire, même si Klemperer n'a aucun rapport direct avec la psychanalyse. Klemperer est quelqu'un qui s'intéresse aux symptômes. Donc, il le dit, il a une philologie... Donc c'est un philologue de la langue. Au départ, c'est un romaniste qui étudie notamment la littérature française du XVIIIe siècle. C'est quelqu'un qui est proche de Spitzer, de Curtius, même s'il a des rapports un peu conflictuels avec Auerbach. C'est très lié à Auerbach, à tous ces gens très très importants qui ont étudié la langue. Mais il s'intéresse aux symptômes. Donc, si vous voulez, on est là dans quelque chose qui est très profondément inscrit dans la façon dont des gens qui ont souffert du totalitarisme ont essayé de le comprendre à la lumière d'une lecture, je dirais, symptomale. Comme il y a Wilhelm Reich, évidemment, il y a Freud lui-même, il y a Adorno, il y a Benjamin, il y a Ernst Bloch, il y a cette merveilleuse femme, Charlotte Bérat, qui, avant de s'exiler, a recueilli les rêves. Comment rêve-t-on sous un régime totalitaire? Donc, c'est ce lien entre la subjectivité et bon, nous, on est en France, en 2022, on est passé aussi par Michel Foucault. Et Michel Foucault nous a appris à éclairer encore plus, d'une certaine façon, le lien entre la politique et la question de la subjectivation ou de la subjectivité. Donc, tout ça est à l'œuvre. Et c'est pour ça que le livre, en fait, commence avec une distinction psychanalytique qui a l'air très technique et qui est très connue des psychanalystes, entre le refoulement et la forclusion. Le refoulement qui est le processus névrotique, commun, courant, nous sommes tous névrosés, et le processus psychotique. Dans le refoulement, les représentations disparaissent, on oublie des trucs, on oublie des événements, on oublie des représentations, mais les affects passent. Ils passent déplacés. Ils passent déplacés. Dans la forclusion psychotique, il n'y a même plus d'affects. Donc ce que je dis, c'est que de toute façon, nous sommes clivés tout le temps. Quand on exprime une émotion, elle est complexe, elle a plein d'arrière-fonds, etc. Bon, c'est pour ça que la psychanalyse, pour moi, reste à l'ordre du jour. Et une politique sans la question de l'inconscient va à sa perte. Pour moi, une politique rigoureuse doit tenir compte de la subjectivation et donc de la question de l'inconscient. Et ce qu'on observe dans les sociétés totalitaires, c'est une sorte de... c'est pas qu'il n'y a pas d'émotion. C'est que les émotions sont des blocs inamovibles, les uns en face des autres, et aucun... Normalement, une émotion s'adresse à quelqu'un d'autre. Une émotion s'adresse. Et dès lors qu'on a une émotion que l'on garde comme ça, comme si c'était une chose précisément isolée, désolée, cette émotion ne va plus bouger et elle n'a plus rapport avec l'autre. C'est-à-dire qu'au fond, la question est éthique. elle est psychologique, elle est aussi éthique, puisque la question éthique consiste à savoir, mais qu'est-ce que vous faites de vos émotions? Qu'est-ce que je fais de mes émotions? Comment avec l'autre, il va se passer... Enfin, bon, je vous réponds de façon un peu labyrinthique, hein, mais le problème est là constamment. Si vous voulez, je vais vous dire d'un mot ce qui m'obsède, ce qui me pose question, et vous êtes spécialiste du Troisième Reich, alors ça va vous parler tout de suite, c'est qu'est-ce qui se passe entre un discours de Hitler qui suscite une émotion énorme de la part des auditeurs, une émotion donc en masse, qui va faire qu'il y aura toute une foule faisant avec émotion, authentique émotion, le salut nazi. Qu'est-ce qui se passe entre cette émotion et le fait que ceux-là vont être enrôlés pour ne pas être émus de tirer sur des femmes et des enfants? Voilà. Qu'est-ce qui se passe entre cette émotion et cette insensibilité? Donc c'est là où la psychanalyse nous aide beaucoup, je dirais.
Oui, alors merci pour cette réponse qui, toute labyrinthique, était très claire. Parce qu'on voit aussi que j'ai envie de dire au-delà de Klemperer, mais c'est même dur à dire, il y a tellement de trucs dans Klemperer, mais ça touche à une question de la modernité, de cette raison qui, comme vous le dites, serait pas l'inverse de l'émotion, mais qui pourrait tomber dans l'insensibilité. La question que vous posez, elle est essentielle, puisque vous montrez que dans le nazisme, outre des choses, c'est-à-dire le moment où l'idéologie nazie tombe dans le kitsch, tombe dans vraiment le mièvre, dans des émotions en fait relativement pauvres, c'est une chose importante. Vous montrez que ce que rejette le régime totalitaire notamment, c'est l'ambiguïté profonde des sentiments, des émotions, des affects. Et vous avez cette belle expression « et pourtant » qui ouvre le livre « et pourtant » en montrant que toutes nos émotions sont marquées par l'ambiguïté. Admiration, mes touches de mépris, joie, mais parfois désespoir, etc. Et vous montrez finalement ce qui pourrait être une nouvelle définition totalement opératoire, que le totalitarisme, c'est le « pas de pourtant » qui fait écho à Primo Levi, « hier ist kein warum », ici il n'y a pas de pourquoi, donc... Le totalitarisme, c'est le pas de pourtant. C'est l'absence d'ambiguïté des sentiments.
Oui, mais vous voyez bien que notre monde moderne capitaliste, il est réglé très souvent sur ce type de pas de pourtant. C'est-à-dire une émotion contre une autre, sans égard pour l'autre. Donc là, je répète, la grande question, c'est pour ça que depuis quelques années, je relis Lévinas avec attention. Hein. La grande question est éthique. C'est-à-dire, non pas seulement psychologique, il y a des émotions, tout le monde a des émotions, mais que faites-vous de vos émotions? Ça, c'est vraiment la grande question. Alors, pour revenir à Klemperer, il est vrai que Klemperer, notamment dans LTI, livre publié disons, à l'époque du régime de l'Allemagne de l'Est, hein, et aussi, hein, il y a un côté chez Klemperer qui est, en tant qu'homme des Lumières, c'est un homme de raison. Donc, en tant qu'homme de raison, c'est un homme qui est pudique sur ses sentiments. C'est normal. Tout ça est vrai. Mais l'analyse selon laquelle... c'est parce qu'il est sans pathos qu'il est juste, me semble un raisonnement faux. Voilà. Il a un pathos, et pathos, vous savez qu'en grec, ça veut dire subir quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il subit, Klemperer? Donc, il est plein de pathos et il décrit son pathos. Il décrit ce qu'il subit et aussi ce que ça lui fait quand il subit, lorsque un type de la Gestapo lui enfonce un chapeau de paille ridicule sur la tête et lui tape dessus, il décrit ce qu'il subit factuellement et aussi l'humiliation qu'il subit, etc. Donc, voilà, il faut tenir compte de tout ça ensemble. C'est assez complexe. Mais si vous voulez, j'ai aucun doute sur le fait que c'est un homme des Lumières. Moi, je voudrais bien être un homme des Lumières aussi. Enfin, j'essaye. Donc, la raison, ça doit travailler. Mais ça doit travailler avec ce que nous sommes. Or, nous sommes des sujets clivés avec des émotions qui, lorsqu'elle ne n'arrive pas à s'adresser, deviennent des catastrophes subjectives et donc des catastrophes éthiques.
Merci. Et je pense que ça, on le voit. Ce que je trouve intéressant dans la manière dont vous liez le journal et le livre LTI, c'est que d'une certaine manière, ça reformule aussi un certain nombre des analyses de Klemperer. Et notamment dans ce côté bloc de granit, comme vous venez de le dire, du nazisme, le fait que. Il y a des très bonnes pages sur le fait que les nazis utilisent énormément de superlatifs. Alors, on va pas parler, enfin, on peut le dire en allemand, mais pour le traduire tout de suite pour nos auditeurs et nos auditrices, unvorstellbar, pas représentable. Enfin, il y a cette. Comme si les nazis avaient une imagination tellement pauvre que tout devient superlatif à leurs yeux. Alors, comment, à travers ce voyage, vous avez relu la pauvreté imaginaire du Troisième Reich ?
Cette question des superlatifs, elle est très, très intéressante. Parce que. Je pense qu'on peut mettre face à face deux façons d'intensifier. C'est très important d'intensifier. Nietzsche, par exemple, est le philosophe qui a considéré qu'il fallait poser dans l'esthétique et même dans le comportement des gens, la tragédie, la question de l'intensité. C'est très important. Comment un nazi, un fasciste, un néo-fasciste aujourd'hui, un ce que vous voudrez, considère l'intensité ? Il considère que le superlatif, plus vous insistez dans le superlatif, plus vous approfondissez votre racine identitaire. D'accord ? C'est ça, hein ? Vous êtes d'accord avec moi ? C'est comme ça que les nazis... Il se trouve que à une époque où sa bibliothèque était déjà en danger parce que le parti nazi de Hambourg appelait à la brûler, Abi Warburg, le grand historien de la culture, historien de l'art, mais historien de la culture plus généralement juif, qui est mort en 1929, donc il n'a pas vu tous ces événements. Sa bibliothèque a été déménagée en catastrophe à Londres pour échapper à l'autodafé. Abi Warburg avait une réflexion sur le superlatif, absolument inverse de celle des nazis. Il disait un superlatif, regardez, bonus en latin, bon, comparatif, meilleur, et superlatif, optimus. Entre ces trois mots, on a un changement de radical, un changement de racine linguistique. Ça peut nous donner à réfléchir sur le fait que si vous voulez intensifier votre existence, vous devez changer de radical. Ça veut dire que vous devez changer de place. Vous devez changer de place. Ce n'est pas en restant sur place qu'on s'intensifie. En restant sur place, on se fait une sorte de on creuse son terrier, comme disait ironiquement Hannah Arendt à propos de Heidegger. On s'enferme soi-même dans son terrier. Non. Si on veut intensifier véritablement, il faut passer d'un endroit à l'autre. Il faut migrer. Il y a une sorte de philosophie de la migration chez Warburg qui est absolument admirable et qui dit que tout ce qui existe d'intense vient d'une migration. Vous voyez bien que là, il y a deux éthiques de l'intensité. Il y a deux éthiques de dire c'est très fort, quoi. Enfin, je ne sais pas si j'ai un peu... j'ai dévié peut-être.
Tant mieux, parce que en déviant, on apprend énormément et on voit comment, et chez Klemperer et dans votre démarche, on part du vocabulaire. Lui, philologue, pour arriver à une généralisation. Ça m'amène une autre question, parce que en vous lisant, je me disais voilà, Klemperer, moins dans son journal, mais dans LTI, dévoile. Les mécanismes de la langue totalitaire, les mécanismes de domination, les mécanismes d'appauvrissement, d'assèchement, en fait, même de l'intelligence des Allemands de l'époque. Et en vous lisant, parce que vous passez très souvent par la langue originale de l'allemand, tout en traduisant évidemment, comme vous avez cette attention aux journaux intimes, j'ai fait un jeu de mots, enfin, c'est pas LTI, la langue du Troisième Reich, donc Lingua Terti Imperii, c'est LVK, la langue de Victor Klemperer, que vous remettez à l'honneur comme antidote à la LTI. Alors, il y a plein d'exemples. Donc, Trotz allem, il dit souvent ça, malgré tout, rien que dans cette petite expression, Trotz allem, malgré tout, il y a la résistance, mais aussi des choses plus poétiques, la Hoffnungsuhr, l'horloge d'espoir. Alors, est-ce que vous vous considérez comme avoir, comment dire, exhumé la LVK, la langue de Victor Klemperer?
J'aurais pas cette prétention parce que je ne suis pas aussi bon germaniste que vous l'imaginez. Donc je suis plutôt un autodidacte dans la langue allemande. J'ai beaucoup de mal, mais je regarde beaucoup le vocabulaire, hein, ça c'est sûr, autant que possible. Donc je n'aurais pas la prétention d'avoir une véritable théorie de la langue de Klemperer. En revanche, il y a quelque chose qui est pour moi, puisque en tant que philosophe, je m'intéresse à des problèmes. Je suis pas je vous disais tout à l'heure, je ne suis spécialiste de rien. Ça veut dire je suis philosophe en fait. Ça veut dire je ne suis pas expert, mais je pose des problèmes. Il y a des problèmes qui donc il y a une ligne de problèmes qui tourne autour chez moi depuis que j'ai employé cette formule. J'ai commencé par employer la formule malgré tout à propos du film de Claude Lanzmann, sur lequel j'ai écrit un article évidemment très élogieux. Je trouve le film de Lanzmann extrêmement important. Ça s'intitulait Le lieu malgré tout. L'idée, c'était pourquoi aller retourner sur les lieux, notamment des camps tout à l'est, pas Auschwitz, mais Sobibor ou les autres, alors qu'il n'y a plus rien. Pourquoi faire retourner les gens sur les lieux alors qu'il n'y a plus rien ? Le lieu malgré tout. Ensuite, c'est devenu image malgré tout. Là, il y a eu toute cette polémique avec Lanzmann, en particulier, sur le statut des images dans la connaissance de la Shoah. De façon un peu plus récente, j'ai travaillé dans un livre très gros publié chez Minuit également, qui s'intitule Imaginer, recommencer. J'ai travaillé sur ce qui s'est passé entre l'échec de la révolution allemande spartakiste, Rosa Luxembourg, Liebknecht, et l'arrivée de Hitler au pouvoir, et comment dans cet entre-deux il y a la constitution chez toute une constellation de penseurs juifs, persécutés donc, allemands, la création d'une véritable philosophie de l'espoir politique et du temps. C'est Ernst Bloch, c'est Scholem, c'est Benjamin, c'est Hannah Arendt, c'est Marcuse, c'est Günther Anders, il y en a plusieurs. C'est tout à fait frappant de voir que le dernier texte de Liebknecht s'intitule malgré tout, il s'intitule Trotz alledem. Pourquoi il s'intitule malgré tout ? C'est la citation d'un poème révolutionnaire de Freilich Rath, 19e siècle, 1848, qui s'intitule malgré tout. C'est-à-dire, nous échouons dans notre soulèvement actuel et malgré tout, on ne va jamais lâcher dans notre désir d'émancipation. Donc ce malgré tout, il me suit malgré moi, d'une certaine façon. J'étais très surpris de trouver ce texte de Liebknecht que je ne connaissais pas il y a quelques années. Et voilà, donc c'est un motif. Et je vois très bien que ce motif me semble important aujourd'hui de savoir. En fait, la question, c'est comment espérer, comment résister, comment persister dans son désir d'émancipation. Et donc, c'est à la fois quelque chose qui concerne le désir, donc le sujet, Freud, tout ce que vous voudrez, mais le désir d'émancipation, c'est les Lumières, c'est la liberté. La question, c'est la liberté. Où trouver notre liberté ?
Je ne savais pas que Liebknecht avait écrit avait écrit ça non plus, mais c'est très intéressant.
C'est son dernier texte, la veille de sa mort. Et Rosa Luxembourg signe aussi un texte dans la même revue, Die Rote Fahne, c'est le drapeau rouge, et elle écrit « J'étais, je suis, je serai ». Elle écrit ça quelques heures avant d'être assassinée. Voilà, c'est, elle écrit sur un mode presque biblique, enfin sur un mode très étonnant, « J'étais, je suis, je serai ». Elle écrit ce qu'est le désir d'émancipation, à savoir qu'il était, qu'il est, qu'il va subir une défaite, peut-être provisoire, mais qu'il sera. Voilà, c'est, et je reviens à Freud, hein, et aussi au motif principal du livre précédent que j'avais fait, qui s'intitulait « Désirer, désobéir », que pour Freud, le désir inconscient est indestructible. Je ne sais pas si cette idée est vraie. Je ne sais pas s'il a raison, Freud, en disant « le désir est indestructible », mais il doit l'être.
Mais c'est indestructible. C'est ce que vous montrez aussi par rapport au journal. La forme de Klemperer, le journal, on oublie souvent en français que c'est l'action quotidienne. C'est plus visible peut-être en anglais, diary, ou en allemand, Tagebuch, le journal du jour. Et vous le dites, il y a cette puissance désirante de Klemperer d'écrire. Et c'est pas, il y a la résistance, mais il y a aussi le désir au fond de tout ça. J'avais une dernière question avant qu'on se quitte. Klemperer, confronté à la persécution, comme beaucoup de juifs allemands, connaît une crise incroyable de son identité allemande, puisque ce qui le rattachait à l'Allemagne, c'était évidemment la langue, mais son amour, ça, il n'y avait pas de question dans son être, son être allemand. Et puis évidemment, confronté à la persécution, il est, je vais le dire avec mes mots, mais créé en tant que juif, obligé de se conformer à ce que le régime attend de lui. Comment est-ce que, dans le journal, on voit ce balancier identitaire, cette perte obligée de l'identité allemande et ce rapport à l'identité juive ?
Klemperer, je l'ai déjà dit, c'est un homme des Lumières allemand. Donc, pour lui, il se sent allemand jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il reste à Dresde, hein. Son frère immigre aux États-Unis et son frère lui dit mais tu es un mauvais juif, c'est pas bien, il faut quitter cette Allemagne. Non, lui il se sent allemand, il reste à Dresde, surtout qu'il se sent à tort protégé par le fait qu'il s'est marié avec une protestante. Couple extraordinaire d'ailleurs. S'il n'y avait pas le couple, il n'aurait pas tenu, je pense. Quand il lit cette phrase à l'université, quand un juif parle allemand, il ment, son monde s'écroule, littéralement. Il ne se pensait pas comme juif. D'ailleurs, étudiant, il s'était converti au protestantisme pour pouvoir entrer dans l'université. Donc tout à coup, il redevient juif, malgré lui, le pauvre. Et on lui dit qu'il ment, alors qu'il ne fait que rechercher la vérité dans la langue allemande. Donc il y a un renversement considérable de tout son monde. Et puis il y a tout ce qui vient après, c'est-à-dire qu'il ne peut plus emprunter un livre à la bibliothèque, et puis ci, et puis ça, bon, voilà. Et là, on voit, lui, fils de rabbin, on voit comment il fait avec le fait qu'il est juif, alors que ça ne l'intéresse pas, que c'est pas ça sa vie. Mais c'est ça, c'est la raison pour laquelle on en veut à sa vie. Donc, il y a dans le journal une réappropriation absolument bouleversante de quelque chose qu'il pensait avoir quitté pour de bon, parce que c'était juste de la religion. C'est pas un homme religieux, c'est pas un homme croyant, et voilà. Mais il est juif, voilà. Et alors, il y a cette rencontre fantastique avec le livre de Rosenzweig. Ah non, c'est pas le livre, c'est la correspondance, je crois, de Rosenzweig avec Buber, qui l'a entre les mains dans la Judenhaus, dans la maison juive où il est enfermé avec plusieurs autres familles. Enfin, voilà. il comprend rien du tout. C'est très, très compliqué pour lui. C'est très loin. Lui, il se compare à un cordonnier qui en reste à la hauteur des chaussures. Rosenzweig, c'est une grande philosophie. Mais quand même, c'est de Rosenzweig qu'il va prendre l'exergue de son livre LTI, à savoir « La langue est plus importante que le sang ». C'est une phrase de Rosenzweig. Donc il y a une sorte de, chez lui, de, il admet son état clivé, c'est-à-dire son état de, d'homme de raison, d'homme des lumières, de néo-kantien, de ce que vous voudrez. Et voilà, et il est fils de rabbin. Et quand il était petit, il y avait un livre de son père. Quand son père est mort, il l'a vite vendu parce que ça ne l'intéressait pas. C'était une histoire des Juifs. Il retrouve ce livre dans la Judenhaus et il la lit, enfin. Voilà.
Georges Didier Huberman, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces éclairages. Et puis, merci vraiment pour le livre. Hein. Donc, le témoin jusqu'au bout. Voilà, une lecture qui, comme on vient de le voir, brasse non seulement l'histoire de ce qu'a pu être le Troisième Reich et la persécution, puis l'extermination des Juifs allemands, mais comme on l'a vu dans le débat, beaucoup de questions fondamentales sur la langue, sur ce que peut être le poids du désir dans la résistance. Donc on vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée.
Et moi, je vous remercie de vos belles questions.
Très belles questions. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci. Au revoir.